Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le sujet, si vous voulez noter un titre ou quelque chose, vous pouvez mettre « Se revêtir » ou bien « Revêtez-vous ». Et j'aimerais que ce matin, dans la parole, nous regardions plusieurs passages dans lesquels il nous est demandé ou bien recommandé de nous revêtir. Et quand on parle de se revêtir, ça veut tout simplement dire se couvrir ou bien même s'habiller. Ce matin, nous sommes tous revêtus de certains vêtements. D'ailleurs, vous êtes tous très beaux, comme d'habitude, et belles. Gloire à Dieu. Mais au-delà de se revêtir ou de s'habiller de nos vêtements, de choses pour notre corps physique, la parole de Dieu aussi nous exhorte à nous revêtir. Et j'aimerais qu'on observe ensemble ce matin ce que ça peut signifier et comment ça peut devenir des réalités dans notre vie. Donc, on va regarder ça. Et vous savez, il y a plusieurs choses qu'on pourrait observer, mais j'aimerais préciser un petit peu. Parce que parfois, on parle du revêtement de puissance. C'est une chose. On parle du baptême de feu, tel qu'on l'a enseigné la semaine dernière. On peut parler aussi que le Seigneur nous revêt d'un vêtement de louange, ou d'un habit neuf, et de choses comme ça. C'est très bien, c'est très juste. Mais ce matin, j'aimerais pas spécialement parler de ce dont Dieu nous revêt, mais j'aimerais vous montrer plusieurs choses dont le Seigneur nous demande, nous, de nous revêtir. D'accord? Donc on va observer ça un petit peu, et je pense que la première chose à laquelle nous sommes amenés à penser lorsqu'on parle de se revêtir ou bien de revêtement ou d'équipement, c'est assez automatiquement l'armure du chrétien, ce qu'on appelle. La plupart du temps, si on vous dit « revêtez-vous », vous allez penser à cette armure du croyant. Et c'est une bonne chose. Donc on va observer ça dans Éphésiens 6. On va prendre lecture à partir du verset 11. Éphésiens 6, 11, je lis « revêtez-vous ». De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc dans ce passage que nous connaissons tous bien, la plupart du temps, et nous connaissons cette armure du croyant, je pense que vous avez entendu des enseignements ou vu des images là-dessus. Et ce matin, j'aimerais qu'on observe quelques aspects en particulier. Donc on voit ici la première indication qui est donnée au verset 11, c'est « revêtez-vous ». Et ce que j'aimerais que nous remarquions déjà au sujet de ce thème que j'ai abordé avec vous ce matin, c'est qu'il nous dit « revêtez-vous ». Ce qui veut dire qu'on ne peut pas juste se contenter de prier Dieu et de dire « Seigneur, revêt-moi ». Alors, bien sûr, je le redis quand même, mais dans ce qu'on a dit auparavant, oui, on peut demander à Dieu de nous revêtir du Saint-Esprit, on peut demander à Dieu un revêtement de puissance ou de feu, tout à fait, on peut demander à Dieu un vêtement de louange, on peut demander à Dieu ces choses-là, mais Dieu aussi attend de notre part que nous agissions dans certaines choses. Et là, il nous dit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et il précisera bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on voit déjà qu'il n'est pas question d'armes ou de bataille ou de combat naturel ou charnel. D'accord? C'est peut-être évident, mais c'est toujours bien de le préciser. Et par ailleurs, si vous regardez dans 2 Corinthiens 10, au verset 4 à 5, vous verrez également une exhortation de l'apôtre Paul. Je vais vous en donner lecture. 2 Corinthiens 10. Verset 4, où il nous confirme clairement, 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Aussi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'arrête la lecture ici, mais déjà vous montrer que Paul ici viendra confirmer que les armes que nous avons ne sont pas physiques ou charnelles, mais qu'elles sont spirituelles, et bien plus, il précise qu'elles sont puissantes. Et remarquez qu'au verset suivant, il nous en fait la démonstration, et il n'est pas en train de dire « Dieu, s'il te plaît, amène les pensées captives à ton obéissance », ou bien « Dieu, s'il te plaît, renverse les forteresses ». Il déclare « Nous renversons les forteresses et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Alors revenons ensemble à Éphésiens et voyons un petit peu de quoi est composée cette armure, ou bien quels aspects, quelles facettes nous pouvons lui donner. Éphésiens 6, et je vous propose que nous reprenions donc au verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité. C'est un grand mot, n'est-ce pas? Vous savez, des fois, chacun estime avoir sa vérité. Mais là, il ne nous dit pas « ayez à vos reins votre vérité » ou bien « ayez à vos reins une vérité ». Il dit « ayez à vos reins la vérité ». Or, la vérité est unique. Hein, et la vérité se trouve en Dieu. Et plus que ça, Jésus lui-même est la vérité, puisqu'il déclare « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Hein » Et Jean 17, au verset 17, il nous est dit « Ta parole est la vérité. Hein » Ta parole est la vérité. Donc on voit ici qu'il y a un parallèle que nous pouvons faire clairement entre cette ceinture de vérité que Dieu nous demande d'avoir et la parole de Dieu qui est la vérité. L'évangile de Jean, chapitre 16, nous montre également que l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, est appelé l'Esprit de vérité et qu'il est amené à nous conduire dans toute la vérité. Donc, comment pouvons-nous nous revêtir de cette ceinture de vérité? Eh bien, en nous revêtant, nous équipant de la parole de Dieu, qui est la vérité, et en nous équipant ou recevant le Saint-Esprit qui veut nous conduire dans la vérité. D'accord? Donc on voit bien que ce n'est pas une ceinture physique, mais c'est une image qu'il utilise pour nous montrer que nous devons être saints par la vérité. C'est-à-dire que c'est un petit peu, si vous voyez des fois, même dans les films ou quoi, souvent les cow-boys ou autres, ils ont leurs armes à la ceinture. Hein, et c'est comme si à cette ceinture on peut avoir attaché la parole de Dieu qui est la vérité et l'Esprit de Dieu qui nous équipe et qui nous conduit dans la vérité et ce qui va nous permettre d'avoir ces choses-là qui nous tiennent hein, la ceinture ou bien on peut aussi rattacher ça au fait d'être saint, c'est-à-dire que c'est attaché, c'est quelque chose de bon, c'est solide aussi, ça représente quelque chose hein, donc la ceinture de la vérité. Ensuite, au verset 14 toujours, il nous est dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Donc la cuirasse, hein, juste pour rappel, c'est quelque chose qu'on met en fait au niveau du torse, hein, qui nous recouvre et qui protège. Donc la cuirasse de la justice. Et alors qu'est-ce que c'est que cette justice? Eh bien là encore, on a un parallèle avec la parole de Dieu. Hein, et il nous est dit dans Romains 1, verset 17, « Quand lui, c'est-à-dire en Christ, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc cette justice également nous vient de la parole de Dieu et s'obtient par la foi. Je vous rappelle qu'on a nombreux passages de l'Écriture qui nous montrent que Christ, par l'œuvre à la croix, nous a rendus justes et que désormais nous ne sommes plus pécheurs, nous ne sommes plus impurs, nous ne sommes plus des personnes méprisables, mais nous sommes justes. Pas par nous-mêmes, ce n'est pas notre propre justice que nous recherchons ou que nous défendons, mais nous sommes justes parce que Christ nous a rendus justes. Et lorsque nous nous mettons par la foi au bénéfice de l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés, bien nous sommes rendus justes par ce qu'il a accompli. Hein, donc cette justice nous vient par la foi. Par la foi. Ensuite, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, qu'est-ce que c'est que le zèle? Le zèle, c'est quand on est enthousiaste, lorsque l'on s'investit, lorsque l'on est dynamique pour quelque chose. Et ce zèle nous vient de l'évangile de paix. Or, l'évangile, c'est quoi? C'est la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. En fait, c'est le message de Christ. Et remarquez que le zèle vient de l'évangile. Le zèle ne vient pas d'une parole comme ça. Le zèle ne vient pas juste de s'entretenir sur certaines choses. Le zèle vient de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, c'est-à-dire du message de Christ. Donc lorsque nous demeurons et nous nous entretenons du message de Christ ou de l'évangile, ça nous communique du zèle. Et si nous avons du mal peut-être à avoir du zèle par moment, on pourrait se demander, est-ce que nous nous nourrissons de l'évangile ou de quel évangile? Parce que l'apôtre Paul dira à un moment donné que certains ont un autre évangile. Or, l'évangile est unique, c'est la parole de Dieu. Donc, l'évangile, la parole de Dieu nous donne aussi du zèle, que nous devons revêtir à nos pieds, comme une chaussure. Donc, le zèle que donne l'évangile de paix. Et remarquez également qu'il est question de la paix. Il n'est pas question de je ne sais pas quoi d'autre. Et l'évangile est porteur de paix. L'évangile est porteur de grâce. L'évangile n'est pas porteur de conflit, l'évangile n'est pas porteur d'agitation, il est porteur de paix. De paix. Et d'ailleurs, Jésus lui-même est désigné comme étant le prince de paix. Donc, remarquez déjà, notre armure, elle est loin d'être comparable à une armure de ce monde. On commence par avoir la vérité, alors que bien souvent dans ce monde, quand on fait des stratégies, on essaye de contourner le plus possible la vérité. Ensuite, on a la justice, puisque Dieu nous a rendus justes, mais ce qui va nous amener aussi à être motivés et à produire des œuvres qui soient justes. Donc, quand nous agissons, quand nous fonctionnons, et même quand nous combattons, nous le faisons dans la perspective de la justice de Dieu. Et maintenant, nous avons la paix. Ensuite, verset 16, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc là, on a le bouclier de la foi. Donc le bouclier, vous savez bien ce que c'est ce avec quoi on se protège, ce derrière quoi l'on est en sécurité, et la foi. Et là encore, je vous fais une remarque, on est encore renvoyé à la parole de Dieu, puisque Romains 10, 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce bouclier de la foi que nous avons, mais qui lui aussi est alimenté ou nourri par la parole de Dieu dont nous nous équipons. Donc le bouclier qui nous protège est la foi. Donc remarquez que si nous avons besoin de la foi comme bouclier, c'est que notre propre confiance en nous-mêmes ou nos propres capacités ou nos propres ressources ne sont pas suffisantes pour tenir ferme dans le combat, mais nous avons besoin d'avoir foi, c'est-à-dire d'avoir confiance totale dans les ressources, les capacités et la victoire de Christ pour nous. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin de la foi. Il nous dirait « Allez-y, combattez avec vos propres forces ». Et nous ne combattons pas ou nous ne sommes pas protégés ou en sécurité par nous-mêmes, nous sommes en sécurité par la foi que nous plaçons en lui. En lui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de vérités cachées dans ce verset, mais l'une de ces vérités, c'est que si la foi est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que quand je suis dans la foi, je démontre des choses qui ne sont pas encore visibles. C'est-à-dire que même quand tout secoue autour de moi, même quand ça bouge, que c'est difficile, je peux sortir ce bouclier de la foi qui éteindra tous les traits enflammés du malin, parce que justement, je suis dans la foi, et la foi me dit par exemple que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc même si je suis en train d'avoir la fièvre de tousser ou d'être cloué à mon lit, parce que je suis dans la foi, je me maintiens et je dis la bonne santé est mon partage. Je suis guéri par ces meurtrissures. Mon Dieu est le Dieu qui guérit, l'Éternel qui me guérit, le Dieu de la bonne santé. Et la démonstration va aller même plus loin que simplement parler. C'est une première étape, mais elle va nous amener ensuite à agir sur nos paroles et à nous lever de notre lit. Et nous allons nous tenir debout et les symptômes vont s'arrêter. Et je vous assure que ça fonctionne. Aussi longtemps qu'on reste cloué au lit en train de dire « Ah, j'ai la fièvre, je suis malade. » Oui, tu as la fièvre, oui, tu es malade, et ça peut durer longtemps. Mais quand tu commences à déclarer la parole de Dieu, à laisser cette foi être agissante en toi, tu vas commencer à bouger, tu mets ton pied par terre, le deuxième pied par terre, tu es debout et petit à petit tu vois plus rien. Tu ne vois plus rien parce que la foi, c'est la clé. Et la parole de Dieu déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est un sujet que j'aime tellement, la foi. Et qu'on a vraiment besoin de saisir. La foi, c'est pas juste un petit truc religieux. Hein? On parle des fois de nos confessions de foi. Oui, c'est bien, mais la foi, c'est pas juste de dire, nous croyons en Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre. Nous croyons en la naissance. Quand tu crois, des fois, t'as même pas besoin de dire, voilà ce que je crois, ça se voit, parce que la foi est une démonstration. Si bien que lorsque tu brandis le bouclier, remarquez, le bouclier, c'est visible aussi, hein. C'est la première chose qu'on voit. Vous sortiez le bouclier de la foi, mais votre ennemi en face, logiquement, hein, le bouclier, ça sert à se cacher. Hein. Des fois, on imagine les petits boucliers là. Mais un bouclier, c'était quand même une pièce assez importante derrière laquelle on pouvait se cacher et se protéger. Donc l'ennemi ne voit que le bouclier. Hein. Et puissions-nous apprendre à ne montrer à l'ennemi que le bouclier de la foi qui va éteindre ses flèches. Ne lui donnons pas l'occasion de passer en lui montrant un petit peu de notre doute ou du fait que nous ne soyons pas sûrs et certains. Vous savez, quand on n'est pas très sûr, notre bouclier il a des trous. Et quand un bouclier a des trous, ben les flèches elles vont passer. Hein? Mais quand nous sommes dans la foi, nous mettons un bouclier là, je peux vous assurer qu'il ne peut rien faire. Et la Bible déclare que ce bouclier va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on a le bouclier de la foi, cette foi qui nous vient de la parole de Dieu et que nous devons apprendre aussi à démontrer. Ensuite, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Bien sûr, on parle du salut, on sait que voilà, on est sauvé. Mais vous savez, le casque, bien sûr, c'est ce qu'on met sur la tête, n'est-ce pas ? Et là encore, la parole de Dieu va intervenir. Hein, parce que notre tête, on associe souvent que c'est aussi là où nous avons nos pensées, nos réflexions, nos raisonnements. Hein. Et notre tête a besoin de salut. Nos pensées, nos raisonnements, nos réflexions ont besoin d'être sauvées. Je vous rappelle brièvement que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a parfaitement recréés en lui. Mais notre esprit a été recréé. Cependant, notre âme, quant à elle, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes qui contient nos émotions, nos sentiments, notre intelligence, et toutes ces choses-là, notre volonté n'a pas été régénérée automatiquement en même temps, mais la Bible nous exhorte, et notamment l'apôtre Paul, à travailler au salut de notre âme, hein, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, et l'intelligence nous la renouvelons par la parole de Dieu. Hein. Donc là encore, on voit que le casque du salut nous ramène encore à la parole. Hein. Et par exemple, Jacques, chapitre 1er, verset 21, nous exhorte à nous attacher à la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Revêtez-vous du casque du salut, donc faites du salut une réalité dans votre vie, hein, ou bien activez le salut dans votre vie. Et ensuite, le dernier élément qui nous est donné, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc là, c'est dit très clairement et ça me donne l'occasion une fois de plus de rajouter et d'appuyer que dans notre vie, nous avons besoin d'établir absolument les fondements et l'équilibre entre la parole et l'Esprit de Dieu. Hein? Puisque la parole toute seule, c'est une chose, mais elle n'est pas efficace à elle seule. Hein? Puisque la parole seule, bien comme disait Jésus, que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Hein? Donc, très souvent, en prenant juste la parole, mais sans nous laisser inspirer, conduire et éclairer par le Saint-Esprit, nous pouvons tomber dans certaines erreurs qui peuvent être graves, mais surtout, il nous manque la vie. Il nous manque ce qui fait de la parole quelque chose de réel. Il nous a dit l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc on voit que, la même manière que, bien sûr, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer et pour donner vie à la parole, remarquez aussi que le Saint-Esprit a besoin de la parole, puisque l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc si le Saint-Esprit n'a pas la parole, c'est comme s'il n'avait pas d'armes pour agir. Mais en même temps, si la parole n'a pas le Saint-Esprit pour la manier, c'est comme une épée qui serait posée quelque part dans un coin et ça ne sert à rien non plus. Donc nous avons besoin de la parole et l'Esprit à faire fonctionner ensemble. Donc à travers cette armure du croyant, qui est juste une partie de ce que je voulais vous montrer, mais nous voyons que ça nous ramène à chaque fois à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin de nous revêtir, ou bien de nous nourrir, de nous imbiber de la parole de Dieu pour pouvoir vivre dans la victoire. Et je vous rappelle que non seulement nous sommes appelés à mener un combat, mais plus encore que de combattre comme si nous devions nous-mêmes gagner quelque chose, notre combat, ou bien notre besoin le plus important, c'est de nous positionner dans la victoire que Christ a déjà accomplie pour nous. Hein, je rappelle que Romains 8 déclare que en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je vous rappelle également que par l'œuvre de la croix, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Or, Christ est assis dans une position de victoire. Donc, nous avons besoin, avec toutes ces armes, de nous positionner, en fait, et de nous maintenir ou de tenir ferme dans la victoire qui nous a été acquise. OK? Mais maintenant, j'aimerais observer d'autres choses, parce que c'est vrai que, comme je disais, la première chose à laquelle nous pensons quand nous parlons de devoir nous revêtir ou nous équiper, souvent c'est l'armure du croyant, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la parole, et c'est très juste. Mais j'aimerais vous montrer d'autres choses et un aspect sur lequel nous devons aussi travailler et qui a toute son importance et que quelquefois nous pouvons être tentés de laisser de côté parce que c'est moins enthousiasmant, c'est moins réjouissant que d'être dans le combat ou que d'être dans la position du vainqueur, mais qui est nécessaire et sans laquelle nous ne pouvons pas être dans une victoire totale. Alors, je n'ai pas laissé planer le mystère plus longtemps. Allons dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 13. On va prendre à partir du verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là encore deux choses, revêtez-vous des armes de la lumière. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'armure. Vous savez, la lumière, c'est aussi ce qui évite ou ce qui empêche que des choses soient cachées. Quand la lumière est quelque part, les choses sont visibles. Donc revêtons-nous de la lumière, des armes de la lumière. Et je vous rappelle que nous avons observé plusieurs choses récemment, et si nous voulons qu'effectivement la gloire de Dieu soit visible dans nos vies et qu'il y ait ce rayonnement, cette atmosphère qui change, cette lumière qui soit visible pour les gens même autour de nous, de manière même visible à l'œil nu, il faut commencer par mettre la lumière dans nos vies aussi et à permettre à la lumière de Dieu d'investir toute notre vie, tout de A à Z jusqu'au plus petit recoin. Et je refais ce parallèle avec ce passage que j'aime beaucoup de 2 Corinthiens 3, 18, où il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés. » Mais pour être transformés et pour que Dieu puisse agir dans notre vie et nous rendre semblables à son image, il nous faut découvrir nos visages. Autrement dit, faire tomber les masques, nous débarrasser de ce que nous mettons comme pour donner une apparence, comme pour avoir l'air de quelque chose, comme pour montrer des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Et justement, ça nous rappelle aussi la vérité dont nous devons nous ceindre. Ok ? Donc, revêtons-nous des armes de la lumière, c'est-à-dire laissons la lumière de Dieu éclairer notre vie. Et quand la lumière est là, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a certaines choses qui n'y ont pas leur place et qui ne lui conviennent pas. Et maintenant, il nous appartient à nous de choisir, est-ce que je me revais de cette lumière et je laisse cette lumière prendre la place, ou est-ce que je veux garder certaines zones que moi je contrôle, que je sais être un petit peu dans l'ombre, mais qui me conviennent bien, qui me plaisent bien. Mon gentil petit péché. Oh, mais c'est pas bien grave. Alors la lumière de Dieu, j'essaye de la montrer quand je vais à l'église le dimanche, quand je suis avec des chrétiens. Mais quand je suis tout seul chez moi, ou quand je suis en voyage, encore mieux, on est loin de tout le monde. Vous rigolez, mais franchement, il se passe beaucoup de choses. Non, laissons la lumière de Dieu. C'est ce qui va nous amener, verset 13, à marcher honnêtement, comme en plein jour. Et ça, tout le temps. tout le temps. Je vous rappelle cette image très simple et c'est un test souvent parce que ça peut nous parler et moi ça m'est arrivé d'être testé là-dessus. Et merci Seigneur, j'ai pu faire le bon choix. Mais parfois quand vous passez à la caisse d'un supermarché, on vous donne le montant à payer, vous payez et la personne se trompe, vous donne plus que ce qu'elle doit vous donner, ou voire même parfois vous remet ce que vous lui avez donné par erreur et vous rembourse en plus la monnaie. Et là vous faites quoi? Est-ce que vous marchez honnêtement comme en plein jour? Ou est-ce que vous vous dites, personne n'a rien vu? Ou pire encore, à quel point on peut être tordu? Merci Seigneur! C'est pas merci Seigneur, hein? Quand Dieu te bénit, il le fait jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Parce que dis-toi bien que l'argent qu'elle t'a remis en trop, ce soir, ça va lui manquer dans sa caisse. Et le monde a compris quelque chose puisqu'il dit bien mal acquis ne profite guère. Et il n'a pas tout à fait tort. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, je me souviens qu'un jour, j'avais été pris vraiment par Dieu, mis au défi par le Seigneur. Parce que j'avais le dimanche en plus prêché sur l'intégrité, certaines choses comme ça. Et j'ai été faire des courses dans un grand magasin et j'ai acheté un produit sur lequel il y avait un bon de réduction avec un code barre. Et en fait, je ne sais pas comment la caissière s'est débrouillée, mais elle a passé le bon de réduction qui était sur le produit. Mais elle a pas passé le produit lui-même. Ce qui veut dire que sur ma facture, j'ai eu une réduction de, je crois que c'était 20 centimes, mais le produit lui-même, je l'ai même pas payé. Et c'était quelque chose qui coûtait quand même assez cher. Donc à la fin, j'ai vu le total, j'ai dit, tiens, c'est pas cher, mais bon, j'ai payé. Et finalement, j'ai senti en moi, le Saint-Esprit qui me travaillait. J'étais pas, donc j'ai vérifié mon ticket et j'ai dit à la fille, mais regardez, vous avez oublié de me facturer l'objet. Et bon, la personne était complètement déroutée parce qu'elle m'a dit mais vous êtes qui pour... Enfin, elle était surprise. Elle a dit, mais c'est vraiment la première fois que quelqu'un dit ça et c'est vraiment surprenant que vous me disiez ça. Parce que c'était à mon avantage total. Et là, je peux lui dire, oui, mais vous savez, moi, je suis chrétien et je suis pour les choses justes. Et la personne a pu... finalement, j'ai payé ce que j'avais à payer. Mais juste pour montrer ça, c'est des toutes petites choses. Mais c'est là les petites choses dans lesquelles nous devons aussi amener la lumière de Dieu. Dans lesquelles nous devons être honnêtes tout le temps, comme en plein jour. Hein? Ou des fois, on peut faire des choses un peu... Il peut y avoir beaucoup d'exemples et je suis sûr que vous pensez à quelque chose. Mais parfois, on fait des choses et de toute façon, personne ne le voit ou personne ne le saura. Hein? Ou bien on fait nos petits business, comme on dit. Sans jamais rien déclarer à personne. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Et il dira loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Et oui, mais ces choses-là, c'est des péchés graves, moi je fais pas ça. Ah, mais la querelle et les jalousies, combien souvent sommes-nous pas devant ce genre de tentations aussi et de situations? Mais marchons dans la lumière, comme en plein jour. Et revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vous rappelle que la chair, c'est pas le corps physique. Hein. La chair, c'est ce qui en nous ne se soumet pas à Dieu, en fait. Hein. La chair, donc c'est notre partie qu'on appelle charnelle. Ou bien on va éclairer ça un petit peu tout à l'heure. Mais c'est cette partie-là qui n'est pas soumise à Dieu, qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, qui n'honore pas Dieu. Donc à aucun moment il n'est dit que nous ne devons pas prendre soin de nos corps. Au contraire, d'ailleurs, certains passages nous montrent combien c'est important et que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons aussi en prendre soin et faire en sorte que notre être aussi soit un sujet de gloire pour Dieu. Mais n'ayez pas soin de votre chair, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Hein, donc là, nous voyons que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous revêtir de Christ. Donc, c'est un choix que nous devons faire. Je rappelle qu'au moment de notre salut, Christ nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de la lumière. Ça, c'est accompli, c'est puissant et nous pouvons le déclarer dans nos vies aussi souvent qu'on veut et que c'est nécessaire. Mais il nous dit aussi, dépouillez-vous des ténèbres et revêtez-vous de Christ. Ou bien revêtez-vous de la lumière. Donc c'est une décision que nous avons à prendre. Et c'est à nous qu'il appartient de choisir à quoi nous donnons l'accès, à quoi nous donnons la prépondérance dans notre vie. Est-ce que nous voulons nous revêtir de lumière, du caractère de Christ, de qui il est, de sa nature, ou bien est-ce que nous voulons quand même encore un petit peu nous satisfaire des choses de ce monde? au sujet de se revêtir de Christ, vous pouvez noter, pour ceux qui notent, que Galates chapitre 3, versets 26 et 27 nous montre que vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc à travers le baptême, donc le baptême d'eau qui est une immersion totale, nous revêtons Christ. C'est-à-dire que c'est l'image de notre mort à nous-mêmes ou de la mort du vieil homme, on appelle, pour ensuite ressortir en nouveauté de vie et revêtir Christ. Donc ça, c'est Galates 3, versets 26 et 27. Il dit que par le baptême, nous revêtons Christ. Mais maintenant, bien que nous revêtions Christ, il nous appartient de nous maintenir et de demeurer fermes dans cette position, où c'est Christ qui vit. L'apôtre Paul, ailleurs, dira que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parfois, ça se chante dans certains endroits, mais laissons réellement Christ vivre en nous, vivre à travers nous. Vivons tel que Christ désire que nous vivions, se revêtir de Christ. Ensuite, prenons Éphésiens 4, qui nous parle toujours de se revêtir de Christ en nous dépouillant du vieil homme. Éphésiens 4. Vous savez, en préparant ce message, moi j'étais plus en train de méditer sur la gloire de Dieu, sur sa manifestation dans nos vies, sur cette atmosphère céleste, cette puissance de Dieu qui est appelée à se manifester en nous. Et d'ailleurs, on a eu quelques messages là-dessus en montrant que nous sommes entrés dans un temps où Dieu veut manifester une gloire visible à travers ses enfants, à travers son Église, puisqu'il est dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Et il est évident que cette révélation n'est pas simplement le fait que quelqu'un se lève un jour et dise « Nous sommes l'Église », mais cette révélation vient du fait que la gloire de Dieu soit rendue visible. Et je pensais à ces choses, ce revêtement de la gloire de Dieu, tout ça. Et puis, le Saint-Esprit m'a conduit dans ces choses-là. Et j'ai compris combien il est important, et je l'ai dit, et je le maintiens, et je le rappelle, que bien que nous nous portions vers des choses plus élevées dans notre vie, notre expérience et notre réalisation ou notre évolution avec Dieu, nous devons aussi maintenir les choses que nous pouvons considérer parfois comme basiques et qui sont essentielles et indispensables, et sans lesquelles nous ne pourrons pas entrer dans la réalisation de ce que Dieu voudrait faire. Et donc, parmi ces choses, on se trouve ici à parler de se revêtir de Christ et de se dépouiller de nous-mêmes. Se dépouiller de nous-mêmes. Donc, Éphésiens 4, on va prendre à partir du verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Alors, c'est parce que juste avant, il parle des gens qui vivent justement dans l'obscurité et qui sont dans des choses cachées et qui sont dans les péchés. Il dira, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 20, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et moi, je vais m'arrêter juste là, mais vous pourrez lire plus tard un petit peu la suite, et il donne à nouveau des exemples de certaines choses, de certaines actions que peuvent avoir les hommes, certains péchés que nous pouvons commettre, ou certains comportements qui ne conviennent pas à la nature de Christ ou au fait d'avoir revêtu Christ. Donc là, il nous est dit de revêtir l'homme nouveau. Je vous rappelle que la parole déclare que nous avons été recréés en Christ, Éphésiens 2, verset 10, pour des œuvres bonnes préparées d'avance. Donc c'est ça l'homme nouveau. Mais nous devons faire au quotidien ce choix et cette démarche de revêtir l'homme nouveau. Et de ne pas laisser ce qu'on appelle ce vieil homme, c'est-à-dire notre nature humaine, les propres convoitises, les choses qui peuvent nous titiller quelquefois, prendre le dessus, mais revêtir l'homme nouveau. Dire non, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il est malheureux parfois de voir des gens et même des croyants qui se bagarrent encore des années et des années avec des choses qui appartiennent à leur passé. Et des fois ils disent oui, mais tu sais, il y a telle chose, il y a tel péché, il y a telle habitude que j'arrive pas à me défaire. Mais la parole nous montre comment faire. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Et plus nous nous revêtons l'homme nouveau, c'est-à-dire plus nous décidons et nous déclarons et nous comprenons « je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées » et plus ces choses anciennes n'ont plus d'accès dans ta vie. Mais vous savez, vous pouvez être né de nouveau, être une nouvelle créature, mais quand même encore répondre à certains penchants de votre vie passée ou même du péché si vous ne vous positionnez pas dans cette réalité de la nouvelle création. Donc d'où l'importance de revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire décider, je suis une nouvelle créature, déclarer ces choses-là et se nourrir des vérités qui sont désormais les nôtres. C'est-à-dire de lire la parole et de saisir dans la parole ce qui nous concerne et de le déclarer. D'accord? Et quand vous avez des choses comme ça qui viennent, quand vous avez des tentations, quand vous avez bien des difficultés, ou quand même parfois vous vous sentez condamné par rapport au passé, bien vous pouvez déclarer « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça n'est qu'un exemple, c'est Romains 8. Mais rien qu'avec ces deux versets-là, vous pouvez déjà bien avancer. Hein, parce que si la loi de l'esprit de vie en Christ vous a affranchi, ça veut dire totalement libre. Libéré, les liens sont coupés, les chaînes sont brisées, c'est terminé, affranchi. Et il a déjà tout payé pour que vous soyez libre de la loi du péché et de la mort. Donc quand le péché frappe à la porte, vous pouvez déclarer ces choses et dire « Non, moi je suis libre, je suis affranchi, ça n'a aucun droit dans ma vie. » Quand on vient vous accuser, vous rappeler peut-être des choses du passé, vous dire « Oui, mais toi, avec la vie que tu as eue, pour qui tu te prends, tu te crois qui ?» Ne laissez pas ces paroles-là vous faire dire « Oui, finalement c'est vrai, je suis pas... » Non, commencez à déclarer « Mais qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. » Tout ça, c'est toujours Romains 8. Vous dites ce passage de Romains 8... Il est costaud. C'est pas le seul, mais rien que dans ce chapitre-là, vous avez beaucoup de réponses. Mais c'est à nous qu'il appartient de faire ça. Revêtir l'homme nouveau. Revêtir les réalités de la nouvelle création. Et je vous laisse remarquer, une fois encore, que l'homme nouveau, c'est pas notre ancien homme que Dieu a bricolé pour le rendre meilleur. C'est un homme nouveau. Donc il peut y avoir aucun vice, aucun défaut. Et ce qui appartenait à notre ancienne nature, c'est terminé. Zéro. Fini. Point. C'est un homme nouveau. Nous avons été recréés, pas rafistolés, pas réparés. Recréés. Donc si avant d'être en Christ, j'avais certaines choses qui ne me convenaient pas, mais avec lesquelles je fonctionnais. Si avant d'être en Christ, j'avais des défauts. Si avant d'être en Christ, j'avais des imperfections. Si avant d'être en Christ, certains traits de mon caractère étaient difficiles. Si avant d'être en Christ, j'étais, comme je disais tout à l'heure, timide. Si avant d'être en Christ, certaines choses, je ne pouvais pas les affronter. Si j'étais anxieux, si j'étais dépressif avant d'être en Christ, mais aujourd'hui, il n'y a plus lieu que je ne le sois, puisque je suis une nouvelle création. Et le seul accès que ces choses-là ont dans ma vie, c'est le fait que je leur accorde encore un petit peu de crédit. Mais si je mets le bouclier de la foi en ce que Christ a fait pour moi et en qui je suis, tous ces traits enflammés-là ne parviendront jamais jusqu'à moi. Je ne serai pas atteint et je peux tenir ferme. Donc, revêtez-vous de l'homme nouveau, des vérités de la nouvelle création. Maintenant, de façon très pratique aussi, on va regarder plusieurs passages où il nous est demandé de nous revêtir de certaines choses, et notamment dans la première épître de Pierre, vous verrez en fait que ces choses-là vont découler du fait de se revêtir de Christ et de l'homme nouveau. En fait, ça va nous amener à certaines choses dans nos vies. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Alors bon, il parle aux jeunes, mais il y en avait pour tout le monde dans le chapitre, et il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Mais vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc on voit ici que nous devons nous revêtir de ce qu'on appelle l'humilité. Alors l'humilité, c'est pas l'humiliation. Hein. Être humble, c'est un état d'esprit dans lequel, en fait, je ne m'élève pas au-dessus de ce que je suis réellement. Tout simplement. Hein. Romains 12, verset 3, vous pouvez noter ça pour vous et vous pourrez le comparer, nous exhorte à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est Romains 12, au verset 3. Donc ça vient s'associer à ce passage. Et donc, il nous a dit, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire, n'ayez pas une opinion de vous qui soit trop haute. Autrement dit, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Il ne nous dit pas d'avoir un regard petit sur nous, de nous déprécier, d'être équilibré, puisqu'il dira, aimez-vous les uns les autres, mais avant tout, il dira de nous aimer nous-mêmes, puisque nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais avoir un regard juste, c'est-à-dire le regard de Dieu sur nous-mêmes. Donc, nous nourrir et croire ce que Dieu dit de nous, mais sans nous engonfler d'orgueil, sans nous prendre pour plus grand, pour supérieur. Hein. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. Et je vous rappelle cette vérité puissante que résister à ce que Dieu veut faire dans votre vie, c'est aussi de l'orgueil. L'humilité, ça ne veut pas dire que je veux toujours être le dernier partout, hein, puisque Dieu veut t'élever. D'ailleurs, ici même, il est dit, humiliez-vous sous la main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire que Dieu désire que nous soyons élevés. Et beaucoup de passages de l'Écriture, d'ailleurs, l'appuient. Mais pour que Dieu puisse nous élever, il nous faut nous humilier. Autrement dit, ce n'est pas nous-mêmes qui nous élevons. Mais nous humilions. C'est-à-dire que nous restons simples. Nous restons normal, entre guillemets. Et des fois, les gens se prennent ce qu'on appelle la grosse tête. Hein, et ils deviennent un peu bizarres. Mais le Seigneur nous dit, humiliez-vous, soyez humbles dans vos rapports. Et c'est lui qui va nous élever. Qui va nous élever. Et vous savez qu'on peut être dans une position très élevée, mais être très humble. Et on peut être aussi dans une position misérable et être orgueilleux. Et ça, c'est extrêmement grave d'ailleurs. Mais vous voyez des gens qui sont vraiment misérables, mais sont orgueilleux. Ils estiment que bon, personne n'a rien à leur dire, ils sont meilleurs. Tout ça. Mais quelqu'un comme ça, Dieu ne peut pas l'élever. Hein? Et ce qui est malheureux, c'est que des fois, les gens s'entêtent et se disent qu'ils vont trouver une place, ils vont pouvoir être élevés quelque part, ou bien parfois, ils se placent même au-dessus de tout le monde. Hein? Comme notamment, parfois, parmi les chrétiens, on a des gens qui se prennent un peu pour les juges de toute l'Église, qui prennent en fait la place de Jésus, tout simplement. À chaque fois qu'ils sont quelque part, c'est comme si c'est eux qui ont forcément raison et ils sont en fait orgueilleux et Dieu leur résiste à ces gens-là. Que s'ils apprenaient à s'humilier sous la main de Dieu, Dieu pourrait les élever, Dieu pourrait les positionner et les utiliser pour sa gloire. Donc, soyons humbles pour que Dieu puisse nous élever. Hein? Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, de se déprécier, de se rabaisser. C'est tout simplement dire d'être simplement nous-mêmes en reconnaissant que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, en reconnaissant que la position dans laquelle nous sommes, c'est grâce à Dieu et à son action dans notre vie que nous l'avons, et ne pas nous attribuer à nous-mêmes le mérite de ce que lui a fait dans notre vie. Ensuite, Colossiens 3, on va lire le verset premier, où il est dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre, qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, et c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Donc là encore, on a un rapport entre se revêtir de l'homme nouveau, se dépouiller du vieil homme et toutes sortes d'actions en fait qui ne conviennent pas à notre nouvelle nature, à l'homme nouveau et desquelles nous devons nous défaire hein, pour nous attacher aux choses célestes. Hein. Et là encore, dans la dynamique de plusieurs choses dont nous parlions, on voit bien que nous sommes appelés à nous attacher et à observer les choses célestes, les réalités céleste, la puissance de Dieu, toutes ces choses-là, mais cela ne peut pas se faire si, en parallèle, nous ne nous dépouillons pas des choses terrestres, des choses de ce monde. Ensuite, au verset 12 également de Colossiens 3, il est dit « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc là aussi, des choses très profondes, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Donc tout ça sont des choses dont nous sommes appelés et exhortés à nous revêtir. Et au verset suivant, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, nous revêtir de toutes ces choses-là. En fait, si nous observons tout ça, ça se résume dans le fait de revêtir Christ, puisque Dieu est amour. Ailleurs, il nous est dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, quand nous revêtons Christ, quand nous nous habillons de sa nature, de sa pensée, de son œuvre, de ses sentiments, de sa volonté, eh bien, nous sommes maintenant à même de vivre toutes ces choses-là. Parce que l'une des erreurs ou l'un des excès dans lesquels il ne faudrait pas que nous tombions, c'est d'essayer de combattre toutes ces choses dans notre vie. Parce que je vous rappelle que souvent, quand vous essayez de combattre un péché ou de combattre des choses que vous ne devez pas faire ou de combattre une mauvaise habitude, eh bien, en fait, vous vous retrouvez à fixer votre attention sur cette chose-là. Et je vous rappelle que c'est ce que nous contemplons. Nous commençons à le refléter. Donc, si vous contemplez votre péché, même si c'est pour le résoudre, mais n'empêche que vous le contemplez, vous vous en nourrissez, vous y réfléchissez, vous le méditez, eh bien, vous êtes pris dans un système où vous tournez autour avec ce péché. C'est une vérité très puissante et très libératrice parce qu'on dit souvent aux gens, combattez les péchés. Non, combat pas les péchés. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pas n'accomplissez pas les désirs de la chair et vous pourrez marcher par l'esprit. Sinon, c'est très bien pourquoi il a mis ça dans ce sens-là. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et si le diable essaye de nous faire croire qu'on fait bien d'essayer de nous libérer, de nous dépatouiller par nous-mêmes, parce qu'on se donne l'impression d'accomplir un bon devoir religieux, il le fait parce qu'il sait que pendant qu'on s'occupe de ça, on n'est pas en train de se renouveler des vérités de qui nous sommes en Christ, et on n'est pas dans la victoire. Donc, même avec tous les passages qu'on a vus, rappelez-vous que ça nous ramène à nous revêtir de Christ. Et ça part d'une décision. C'est, je décide de me dépouiller de mon ancienne nature et je me revêts maintenant de Christ, des vérités de la nouvelle création et je me nourris de ce que ça contient. Je me nourris de qui je suis en Christ, de ce qu'il a accompli pour moi et le fait de faire ça va amener justement la lumière dont on parlait tout à l'heure et je vous rappelle que quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de fuir. Et les choses tout à fait naturelles le prouvent, quand le soleil se lève, eh bien la nuit n'est plus là. Sauf si nous mettons un parasol. Alors si vous comprenez l'image, enlevez les parasols dans vos cœurs et dans vos vies. Et laissez cette lumière de Dieu éclater partout. Partout. Alléluia. Et enfin, Apocalypse 19, au verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc là, on voit l'image de l'épouse, et je vous rappelle que Christ vient rencontrer et vient chercher une épouse glorieuse. Et ici, il nous est dit qu'elle est revêtue de fin lin, pur, éclatant, et que ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc comment nous revêtir? Eh bien, en accomplissant des œuvres justes. Mais comment accomplir des œuvres justes? En accomplissant, Éphésiens 2.10, les œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc ça ne revient pas du tout au salut par les œuvres, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche que l'Église ou nous-mêmes, nous sommes revêtus d'un fin lin qui représente l'œuvre juste des saints. Alléluia. Et donc en conclusion, je vais vous montrer une perspective encore dans 2 Corinthiens 5, verset 4. 2 Corinthiens 5, verset 4, on voit que Paul est en train de parler en fait du corps physique, qu'il compare à une tente. Et il nous dit, on va même prendre à partir du verset 2, 2 Corinthiens 5, verset 2, « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir pour ce que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc ici, on voit plusieurs choses et on ne va pas développer beaucoup, mais n'empêche qu'il dit que nous voulons nous revêtir pour que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est une avance, si on veut. Donc Dieu nous a revêtus de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est une chose, mais nous aussi, comme l'exprime Paul, nous devrions désirer ou aspirer à nous revêtir jusqu'à ce que la vie de Dieu, la vie divine, la nature de Dieu, sa puissance de gloire, vienne engloutir ce qui est mortel. Alléluia. Donc ce qui veut dire que non seulement on doit se revêtir de certains comportements ou de certains sentiments ou de la nature de Dieu, mais qu'à force de nous revêtir de cette nature de Dieu qui est la vie en elle-même, eh bien cette vie va même engloutir ce qui est mortel. On peut arriver à un point apparemment où cette vie de Dieu, cette nature divine de Dieu, cette puissance de Dieu va engloutir ce qui est mortel, c'est-à-dire que nos corps vont même connaître une transformation, voire une transfiguration, pour que cette vie de Dieu vienne remplacer. L'autre jour, je vous montrais qu'on a été fait participant à la nature divine, et que donc désormais c'est cette nature de gloire qui doit vivre en nous. Et cette nature notamment, ou bien cette vie divine, par exemple, excusez-moi d'insister sur ce sujet, mais c'est le plus frappant, eh bien ne connaît pas la maladie en elle-même. Donc plus nous nous revêtons de la vie divine, et plus ce qui est mortel en nous, c'est-à-dire les choses de la maladie aussi, et du dépérissement, et excusez le terme un peu fort, mais même du pourrissement, peut être englouti et remplacé par la nature de vie de Dieu. Et il est vrai que 1 Corinthiens 15 nous parle d'un temps futur où Jésus apparaîtra, et en un clin d'œil nous serons transformés pour avoir un corps glorieux et monter avec lui au ciel, mais il n'exclut pas que notre corps physique, notre corps mortel, puisse être revêtu par la vie de Dieu à tel point que la nature divine agisse et vienne remplacer ou bien engloutir, comme disait Paul ici, notre nature physique, nos limitations, les empêchements de notre corps, les vérités. Oui, on appelle physique ou bien biologique. Et moi, je le crois et je le crois de tout cœur. Et je m'attends à le voir se réaliser. Mais pour avancer dans ces dimensions et pour que notre vie commence à être, notre vie mortelle, notre vie limitée commence à être engloutie et remplacée par la vie divine et illimitée de Dieu, eh bien, nous avons besoin de nous en revêtir. Et ça passe par le fait de nous revêtir de tout ce que nous avons observé ensemble ce matin. Et le dernier passage que je vais vous donner, c'est Romains 2. Au verset 7, il est dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ou bien la corruptibilité, selon les versions que vous avez. Donc on voit qu'il y a un lien entre la vie éternelle que Dieu veut nous donner et nous réserver et le fait de rechercher ou bien d'aspirer après le fait que Dieu soit honoré, que sa gloire soit proclamée et manifestée et même l'immortalité, c'est-à-dire aller au-delà de nos vérités physiques. Donc Dieu réserve la vie éternelle. Mais par contre, l'irritation et la colère sont réservées à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc il y a un choix très clair à prendre et à désirer se revêtir de Christ, se revêtir de l'homme nouveau et au fond se revêtir de la vie de Dieu et de la nature de Dieu à tel point que ce qui est charnel ou mortel soit englouti par cette vie. Alléluia! Ça vous plaît comme programme ça? Donc de la même manière que chaque matin nous nous habillons, nous choisissons un pantalon et une chemise, ou bien une robe, ou tout ce que vous voulez. Et bien, de la même manière, moi, je vous exhorte à appliquer la parole de Dieu et à vous revêtir. À vous revêtir de l'armure du croyant, à vous revêtir de vérité, à vous revêtir de lumière, à vous revêtir de Christ, vous revêtir de sa gloire, vous revêtir de sa vie, de sa bonne santé, de sa victoire. Toutes ces choses-là, sont disponibles pour vous. Et aussi bien que le matin on a choisi le vêtement qu'on veut mettre, parfois en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, parce que c'est ce que l'on voit de vous, mais de la même manière, revêtez-vous de Christ, de sa gloire, pour que ce que les gens voient, ce soit Christ et sa gloire et sa victoire dans votre vie. Ok ? Alors choisissez de quoi vous revêtir, pas du vieil homme, pas des choses charnelles, mais de l'homme nouveau et de Christ lui-même. Et une façon très simple et pratique, c'est le matin, pourquoi pas même quand vous vous habillez, comme ça vous n'oublierez pas, parce que tous les jours vous vous habillez, quand tu t'habilles, tu déclares, je me revais de Christ, je me revais de la victoire de Jésus-Christ, je revais les sentiments qui étaient en Jésus, je revais la nature glorieuse, je revais la nature de gloire de Dieu, je me revais de la bonne santé. Et c'est pas une manière de s'auto-convaincre, c'est une manière d'obéir à la parole, de croire et de proclamer ce que Dieu a accompli pour nous. Et la parole déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut et la justice. Donc croyez dans votre cœur, confessez de votre bouche et revêtez-vous, habillez-vous. Et avant de conclure, je vous propose qu'on le fasse ensemble ce matin. Peut-être qu'on se mette debout un instant et qu'on puisse tenir devant Dieu et pourquoi pas le dire, le faire, et même si vous avez envie de faire un geste, toutes ces choses, ce qui peut vous aider à prendre conscience, mais en tout cas, revêtons-nous ce matin de cette parole. Alors Père, merci pour ta parole que tu nous as envoyée, merci pour cette instruction. Sinon, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux ou seulement des gens qui écoutent et puis qui laissent le temps passer, dont les choses entrent dans une oreille et sortent de l'autre, mais nous voulons, Seigneur, appliquer ta parole. Et Seigneur, merci parce que nous n'avons pas besoin d'être tristes ou abattus lorsque tu nous appelles à nous revêtir de l'homme nouveau, à nous revêtir d'humilité, à nous revêtir de ta lumière et à laisser de côté les choses charnelles. Mais nous pouvons nous réjouir parce que si tu nous invites à le faire, c'est parce que tu as pour nous des projets élevés. Et tu as dit que celui qui s'humilie sous ta main, toi tu sais comment l'élever, Seigneur. Et merci parce qu'en fait, à mesure que nous nous revêtons de ce que tu as prévu pour nous et de ce que tu nous recommandes de faire, eh bien, nous recevons de plus en plus ta vie en abondance. Et notre corps est transformé, notre être entier est transformé jusqu'à épouser ta nature totale et être entièrement englouti par toi. Alors ce matin, Seigneur, alors que nous sommes devant toi, nous avons entendu ta parole, nous la recevons et nous voulons l'appliquer, faire cet exercice pratique. Et ensemble, nous déclarons, si vous voulez, vous pouvez parler par vous-même ou bien répéter après moi, je me revais de la nature de Dieu. Je me revais de Christ. Je suis dépouillé du vieil homme. Je suis une nouvelle création. C'est pourquoi je me revais de l'homme nouveau. Je me revais de lumière. Que cette lumière éclaire autour de moi pour la gloire de Dieu et que cette lumière m'éclaire tout entier et que toutes les zones d'ombre dans ma vie soit maintenant mise à la lumière. Et au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je renverse les forteresses, les raisonnements, les empêchements qui s'opposent à la nature de Dieu en moi. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, rien ni personne ne me séparera de l'œuvre accomplie pour moi. Parce qu'à la croix, ma victoire a été accomplie. Et je suis désormais assis dans les lieux célestes, en Christ. Et ce sont les choses d'en haut que je recherche et dont je me revais. Je me revais de la gloire de Dieu. Je me revais de la victoire de Christ. Je me revais de ses sentiments. Je me revais de l'amour de Dieu. D'humilité. De sagesse. De grâce. De paix. De vérité. Du salut. De la foi. Comme une armure. Pour tenir ferme. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont en action dans ma vie. Et je suis maintenant revêtu. Et ce revêtement de vie vient engloutir ce qui est mortel, ce qui est terrestre, ce qui est charnel. Je ne serai plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.